Salut, c'est David, bienvenue sur Aller, le podcast qui parle d'escalade. Dans cette émission, on donne la parole aux grimpeuses et aux grimpeurs pour partager leurs histoires et te révéler leurs secrets. J'espère que ces bavardages seront pour toi une source d'inspiration et de motivation. Un grand merci à Béal pour leur soutien. Je suis heureux de pouvoir compter sur cette marque française qui accompagne les grimpeurs dans leurs envolées depuis plus de 40 ans. Et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
Le travail pour arriver à faire un bloc qui se rapproche de notre limite, il est des fois il est énorme et il est énorme pour seulement quelques mouvements et un temps d'effort qui des fois ça dure 45 secondes quoi. Moi avant je m'énervais un peu, j'ai appris au bout d'un moment à me détacher un petit peu et à accepter en fait le fait que ce soit pas nécessairement un échec.
Le bloc de haut niveau est un jeu qui peut rendre fou. Un jeu qui consiste à tester ses propres limites et où un micro-mouvement, le taux d'humidité, l'épaisseur de la peau ou le manque de lucidité peuvent faire la différence entre retour au sol ou franchissement d'un passage. Un jeu d'essai et d'erreur où l'on apprend petit à petit à apprivoiser des préhensions, des mouvements, un sens du rythme. Comme le dit Clem Le Chaptois, quand on a beaucoup essayé un bloc, on a l'impression de jouer à la roulette. Car on sait que le prochain essai pourrait être le bon. Il suffit d'être patient, déterminé et détaché de l'issue du combat entre ses doigts et un morceau de rocher. Depuis qu'il se consacre pleinement au bloc hardcore, Clem explore ses limites entre les vallées caillouteuses des Alpes, de Suisse et d'Afrique du Sud. Une activité qui lui permet de fréquenter une communauté de défricheurs de passages extrêmes, dont les exploits sont principalement médiatisés sur la chaîne YouTube Mello. En parallèle, il a fondé une start-up avec Laurent Vigouroux pour répondre aux besoins de la Fédé de s'équiper d'une poutre d'entraînement connectée, la Smartboard. On a creusé pas mal de sujets dans cette interview, de ses projets, à son article de recherche sur l'intensité de l'entraînement en escalade, en passant par ses débuts avec les frères Tribou, sans oublier son insatiable appétit pour les blocs durs. Allez, bonne écoute.
Ça va?
Eh ben oui, ça va et toi? On y arrive enfin à se capter.
T'es un peu mon serpent de mer, quoi. Je pensais jamais y arriver, quoi. Là, j'étais en train de me dire, je vais aller prendre le déjeuner. C'est tant pis.
Non, je m'excuse. J'étais en train de regarder la demi-finale du championnat de France de bloc. J'ai pas vu l'heure. Ça passe, à la fois, ça passe vite et lentement, c'est compète. Je m'excuse. Mais non, les fois d'avant, j'ai eu des mois bien occupés les derniers temps. Et du coup, c'est vrai qu'avec plein d'imprévus, et voilà. Mais là, ça va mieux. Ça s'est un peu calmé. Voilà. Du coup, ravi de faire ce podcast avec toi.
Yes, trop bien. Donc toi, t'as Eurosport.
Moi, je suis quoi?
T'as Eurosport pour regarder la demi-finale?
Non, j'ai un VPN.
T'as NordVPN. On va faire.
J'ai Proton VPN, mais c'est
Proton VPN. Ok. Voilà. On remercie encore l'IFSC pour leur deal avec Eurosport.
Tout le monde est content, je pense.
Ouais. J'arrive pas à voir les résultats, donc ça en est où?
Ça en est que Enraku Sorato est premier, Michael Mahouem second. Troisième, c'est je sais plus. Il doit y avoir. Mejdi est cinquième, je crois. Nicolas Yuznik est sixième. Il m'en manque deux dans l'eau. Peut-être deux japonais. Yes. Je sais pas, je me rappelle plus. Mais c'était un tour sympa. Ouais.
Ok. Voilà. Trop bien. Et finale ce soir.
Et finale ce soir, ouais. Voilà. Mais okay. Je crois que c'est pas le sujet de ce podcast.
Non, mais. Non mais comme ça je sais maintenant parce que j'ai cherché partout là en attendant que tu te connectes. Tant mieux, merci beaucoup. Cool, et ben déjà salut.
Eh ben salut. Enchanté.
Enchanté. Je crois qu'on te présente pas vraiment, Clément. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écouteront, qui te connaissent. T'en es où un peu dans ta saison là?
Moi, l'été, c'est un peu ma saison creuse pour le blog parce que j'aime pas les conditions chaudes. Donc moi, les saisons que j'affectionne particulièrement, c'est souvent l'automne parce qu'il y a, c'est encore sec de l'été et les conditions se refroidissent. Du coup, c'est quand même ma saison fétiche. Et après l'hiver et printemps-été, ouais, je suis pas un grand fan. Du coup, je grimpe quand même un peu en altitude quand j'ai l'occasion. Un peu en Suisse, au col du Gothard, au col du Sustain, ou à l'époque, je grimpais au Grand Sable, là aussi, dans les Alpes françaises. Mais en gros, en été, je grimpe au-dessus de 2000 mètres d'altitude, ou sinon, dans l'hémisphère sud, quand je prends l'avion. Mais sinon, l'été, pour moi, c'est quand même pas mal la saison creuse. Du coup, là, je me suis... En fait, j'ai travaillé finalement au mois de juin, juillet, pour avoir un peu d'argent, pour prévoir des trips justement à l'automne. J'ai fait un petit break sur mes projets outdoor et là j'ai repris. J'étais au col du Gothard la semaine dernière et c'était cool. Il y a des bonnes conditions. J'étais pas loin de faire un beau blog qui s'appelle Child of Hell, un 8C de Sean Rabutu. Et du coup, en gros, ça me motive encore pour cet été. Mais sinon, j'ai pas non plus des tonnes de projets pendant l'été. L'idée, ce serait de me préparer à partir du là les prochaines semaines. De me préparer à l'entraînement pour être en forme pour les projets de l'automne, quoi. Voilà.
Ouais, les projets de l'automne et de l'hiver, donc tu vas retourner notamment dans Alphane, non?
Et du coup, ouais, je vais être motivé pour retourner dans Alphane. Alors ça va être peut-être un petit peu plus tard dans la saison, finalement. Je suis motivé, j'ai des projets dans le Valais, en Suisse. J'ai un projet en particulier qui me tient bien à cœur, c'est... le départ assis d'un blog qui s'appelle Permanent Midnight. C'est un blog que Dave Graham avait ouvert, je sais pas, en 2005 ou un truc comme ça. Et c'est un 8A+ très classique et il y a un départ bas assez connu comme étant c'est un projet que depuis des années, du coup. Et j'ai passé pas mal de temps à défricher les moves de ce truc et je commençais à bien bouger. Du coup, j'étais motivé pour essayer de faire ça à l'automne. Et après, il y a peut-être un voyage en Finlande qui se profile en octobre.
Ah, t'as pris tes tickets pour la Finlande?
Alors, pas encore.
C'est bon, ça.
Pas encore, parce qu'on est en train de s'organiser peut-être pour y aller avec Nicolas Pellorson.
Ah ah. Qui essaye aussi Alphane.
Qui essaye aussi Alphane. Ouais, on s'était un petit peu vu au Tessin. Et donc, peut-être que je vais retarder un petit peu mes essais dans Alphane l'hiver prochain, mais en fait, c'est pas très dérangeant parce que la saison à Alphane. Elle est assez longue finalement, alors que pour les deux autres blocs que j'ai mentionnés avant, la saison est plutôt courte. Ouais. Du coup, et puis ça m'intéresserait d'aller voir à quoi ça ressemble avant de retourner presque dans Alphane. Culturellement, c'est un truc qui m'excite depuis longtemps. Je voulais le faire l'année dernière, au printemps, et j'ai pas trouvé assez d'argent et de support pour y aller. Du coup, ça a été repoussé là, à l'automne. Donc, je suis motivé pour ces trois blocs, pour disons, dans les 6 prochains mois, quoi.
Yes. Ouais. J'imagine que t'as quand même un peu suivi l'espèce de, comment dire, de branle-bas médiatique autour de Burdens of Dream.
Oui, bah avec les aventures de Will, nécessairement.
Avec les aventures de Will, avec aussi tout ce qui s'est passé autour du fait qu'ils utilisaient une réplique, etc. Et qu'ils médiatisaient presque toutes ces séances.
Ouais, alors ça, c'est un sujet qui... je sais pas comment dire. C'est intéressant. Après, c'est hyper personnel et propre à la vie des gens. C'est-à-dire que Will, il a une personnalité et maintenant une image publique qui fait que il assume ça, je dirais, sans retenue, et c'est un truc qui a l'air de lui convenir, et les gens aiment ça, je pense. Les gens suivent. Après, c'est costaud de sa part d'arriver à assumer ça sans se mettre une pression supplémentaire, et il aurait pu y aller dans son coin sans rien dire, et puis à la fin de son trip, dire ouais, j'ai fait Burden. Et sauf qu'en fait, il a pas fait ça, et c'est franchement, moi je respecte vachement ça. Après, c'est pas du tout dans mon tempérament de le faire. Moi, je préfère être un peu caché, tranquille. Et grimper avec mes potes, avoir filmé par moi-même, ou alors avec un pote caméraman, mais rester dans un milieu, je sais pas comment dire, mais plus tranquille, peut-être plus, ouais, moins
plus
médiatique,
serein,
disons. Ouais. Mais n'empêche, j'ai regardé, bon, j'ai pas tout suivi, hein, parce que les lives d'une heure où il y a un essai toutes les 30 minutes, tu vois, je regarde pas, mais en plus j'aime bien Will, il est sympa, il est positif et tout. Après il a beaucoup d'énergie et il s'en sert à bon escient, je pense. Après ouais, moi si je pars sur un trip avec quelqu'un, c'est vrai que s'il commence à y avoir des lives et qu'il faut être impliqué dedans, je sais pas si ça m'exciterait beaucoup.
Ouais.
Mais par contre, mais si, j'ai bien aimé. Je trouve ça bien qu'il y ait différents types de communication, différents types de promouvoir le sport. Et il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que, en fait, ils promouvoient vachement la grimpe dehors. Et quand même, c'est quelque chose. Le blog en extérieur, c'est pas facile à promouvoir. Et il le fait d'une manière assez mainstream, mais du coup, qui parle à tout le monde et qui est intéressante, je trouve. C'est pas hardcore comme certains autres puristes pourraient le faire, mais par contre ben il donne accès au sport, il explique le sport qu'on fait au plus grand nombre, et ça je trouve que c'est bien de le faire.
Ouais,
voilà.
Ouais, effectivement.
Voilà. Après pour l'utilisation des répliques, c'est autre chose, c'est encore un autre sujet.
Toi tu j'imagine que t'as pas accès à une réplique.
Non, enfin j'ai vu les prises, je les ai touchées, j'ai pas grimpé dessus encore. Enfin si, une fois j'ai grimpé dessus en fait. Mais parce que Aidan m'en a prêté un set de juste de deux prises du premier move. Donc j'ai pu essayer rapidement une séance une fois. Mais en fait, il se trouve que les répliques, moi je trouve ça bien. Là dans ce cas-là, c'est un cas quand même hyper spécifique parce que t'es dans un cas où le bloc, il est si pur, il est pas, y a pas de relief particulier quoi, que en fait ça s'y prête hyper bien quoi. Et
c'est un panneau, ouais.
C'est un pur panneau, il est à 42, enfin entre 40 et 45, de ce que j'ai entendu, 43, 42, bon voilà. Mais c'est un pur panneau, il y a quatre réglettes dedans, c'est pas haut, c'est et du coup ben j'ai trouvé, enfin moi je trouve que c'est intelligent d'avoir poussé le truc, ça pousse l'activité à progresser et il n'y a pas de raison de, ben, je veux dire les compétiteurs quand ils s'entraînent pour des coupes du monde, ils s'entraînent sur les mêmes prises que sur les coupes du monde et on va pas leur dire qu'ils ont utilisé des répliques parce qu'en fait bon forcément ils ont pas fait les blocs à l'avance, mais en fait ils essaient de s'en rapprocher un maximum en appelant les ouvreurs qui vont ouvrir sur les compétitions avant. Du coup, je vois pas pourquoi, dans quelle mesure, il y aurait un débat là-dessus sur la grimpe en extérieur, quoi. Moi, je trouve que c'est intelligent dans la mesure où, en plus, aujourd'hui, on parle de plus en plus du fait de se déplacer pour aller grimper, etc. En fait, Will, il a optimisé au maximum. Bon, il se trouve que lui, il est pas nécessairement engagé écologiquement, mais quand même, mine de rien, tu peux voir ça dans cet aspect-là aussi. Tu t'entraînes le mieux possible à la maison, tu minimises le nombre de trips. Hop, tu torches ton projet, tu rentres chez toi, l'affaire est pièce. En vrai, j'ai trouvé que c'était hyper abouti comme préparation et que finalement, que j'ai trouvé que c'était bien fait quand même.
Ouais. Bah, ouais. On voit qu'à ce niveau-là, il faut quand même avoir le souci du détail. Il faut être aussi un petit peu malin sur la préparation quand tu fais un bloc.
Ah ouais.
C'est obligatoire.
Ah, mais c'est extrême. En fait, c'est ça justement qui est difficile à comprendre quand tu es pas dans la pratique du bloc hardcore en extérieur, c'est qu'en fait des fois en fait tu passes ton temps à attendre les conditions, tu passes ton temps à avoir de la bonne peau, tu faut jamais trop se fatiguer parce que si tu te flingues une séance derrière, il va falloir du temps pour récupérer. Bon, après on s'entraîne pour être au mieux de ça, mais quand même les facteurs conditions, peau, énergie, tout ça, en fait ça c'est des trucs que tu maîtrises pas toujours. Et sur un trip d'un mois, ça peut passer hyper vite et tu peux avoir très peu de créneaux, et notamment pour des blocs comme ça. Et du coup, je pense que le fait d'arriver, lui, il est arrivé prêt à taper des runs alors qu'il n'avait jamais essayé le bloc. Et je pense que ça, c'est à mon sens, c'est quelque chose qu'il a vraiment bien fait, ouais, je trouve, et qui avait jamais été fait à ce point-là jusqu'à présent.
Ouais, il avait décortiqué toutes les méthodes possibles, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour les premiers moves.
Ouais.
Il avait regardé, il connaissait à peu près la saison, il connaissait à peu près la fenêtre, ouais, météo qu'il avait pour y aller.
Ouais. Mais ça, on le sait à l'avance. On sait que c'est, en gros, c'est octobre et, octobre et avril, les deux mois où tu as des bonnes conditions au bloc, en gros. Et en fait, lui, il est arrivé comme s'il avait déjà un mois de saison dans les pattes, quoi.
Ouais.
Et il est arrivé au moment où il y avait des top condis. Et en vrai, il a eu chaud quand même parce qu'à la fin, il disait que ça se réchauffait vachement.
Est-ce que toi, t'abordes tes projets un peu aussi comme ça? On va prendre par exemple le cas d'Alphane.
Ouais.
Est-ce que tu vas rentrer dans ce type de minutie pour aller toper un bloc?
Dans le cas de Burden, je pourrais, parce que il est loin. Dans le cas d'Alphane, où c'est pas si loin, je peux y aller. C'est, pour moi, c'est relativement accessible. Et dans le cas d'Alphane, pas spécialement, pas dans, je sais pas comment dire. Je m'entraînerai spécifiquement, c'est certain, pour arriver le plus près possible, mais pas de là à faire une réplique. Par contre, si je vais à Burden, c'est clair, c'est sûr et certain que je vais utiliser une réplique, ouais.
Ouais.
Parce que pour ce bloc-là, c'est relativement facile à mettre en place et à mon avis c'est une vraie arme. Pour Alphane c'est beaucoup plus compliqué. Pour Alphane c'est le bloc, il est trop, je trouve les préhensions et tout trop spécifiques et le style d'escalade trop spécifique et trop technique pour qu'une réplique, une vraie réplique vaille le coup. Par contre m'entraîner spécifiquement pour tel ou tel move, ça je le fais déjà, ouais. C'est ouais. Quelque chose que je fais souvent. J'ai tendance à toujours essayer de me focaliser sur mes points faibles du moment pour progresser. Du coup, à chaque fois que je vais dans un bloc ou que j'identifie un point faible, et du coup, je me plonge dedans pour progresser dans ce style, pour combler mes lacunes. Et c'est comme ça que je fonctionne toujours. Donc, de cette manière-là, oui, je pense que je m'entraîne spécifiquement pour chaque bloc que j'essaye. Ouais.
Donc, tu es la preuve vivante que pour progresser, il faut travailler sur ses faiblesses.
Ah bah moi c'est ma conviction, ouais, clairement. Mais pas sans pour autant négliger ses points forts, faut les entretenir et continuer à les faire progresser aussi, mais et faire en sorte que ça reste des forces. Mais sur du long terme, moi je suis, enfin si t'as envie de faire un seul bloc dans ta vie, c'est différent. Tu vas que dans un truc, mais si t'as envie de faire plein de trucs différents en escalade, moi je suis persuadé qu'il faut toucher à tout et essayer d'être fort. Enfin, le plus fort que tu peux dans tout ce que tu peux. Même si, évidemment, tu gardes toujours des points forts, mais si tu réduis tes points faibles, je pense que bah, tu as toujours plus d'options qui s'offrent à toi pour réaliser un même mouvement. Et du coup, moi, je suis convaincu que ça rend plus fort en escalade. Ouais.
Yes. Pourquoi est-ce que t'as choisi de faire Alphane? Alors, c'est peut-être pas bien formulé, mais pourquoi Alphane et pas un autre?
Déjà, c'est le plus proche de chez moi.
T'es à Annecy, c'est ça?
Ouais, j'habite à Annecy. Et du coup, je suis assez proche des Alpes suisses. Alors, c'est quand même pas à côté, hein. J'ai 4 heures de route pour y aller. Mais c'est un endroit que je connais bien. Et aussi, en fait, je me suis même pas vraiment posé la question puisque j'ai commencé à essayer le bloc avant qu'il soit ouvert. Donc, j'avais rapidement, mais j'avais essayé ce bloc une fois avec Giuliano, Daisuke, un japonais. Il y avait Hugo Parmentier aussi ce jour-là. En fait, un jour depuis, le bloc, il est toujours sec. Du coup, on y est allé un jour depuis et on avait essayé le bloc une journée comme ça, on s'était marré. Mais puis ça m'avait semblé ultime, mais marrant. Et en fait, l'année deux ans après ou un an après, je ne sais plus. C'était il y a longtemps quand même ça. Et après, Sean a commencé à essayer le bloc et c'était à une époque où je grimpais un petit peu avec lui de temps en temps parce qu'il était venu à Fionnet et du coup, on avait un peu grimpé ensemble là-bas. Et du coup, quand il avait commencé à essayer le bloc, bah, du coup, je m'étais pris au jeu aussi et j'avais commencé à essayer à ce moment-là. Alors, l'année dernière, j'ai passé un peu de temps. L'année d'avant, finalement, j'avais passé un peu moins de temps. L'année où il l'a fait, j'avais passé un peu de temps, mais pas tant que ça. Et cette année, je me suis investi, mais j'ai aussi pas mal de taf. Et du coup, j'ai pas réussi à le finir. J'ai pas eu toujours les bons créneaux pour y aller. Mais du coup, j'ai commencé à l'essayer parce que le bloc, il est amusant et pour le coup, celui-là, il me pousse dans mes points faibles. C'est des types de préhension que j'affectionne pas particulièrement, notamment dans la section haute du bloc. Voilà. Mais du coup, j'ai pas choisi d'essayer le bloc. Enfin, si, je l'ai choisi, mais je sais pas, je me suis mis à l'essayer alors qu'il n'existait pas encore. Et puis, ouais. Ça m'amuse encore d'y aller. Donc voilà, ça me fait triper. Et puis, vu que je deviens de plus en plus proche, ben nécessairement, je suis pas un profil à abandonner très facilement.
Yes.
Et du coup, Du coup, tant que je progresse et que ça m'amuse, j'y retourne. Après, j'aime bien aussi, des fois, quand j'essaie des gros projets comme ça, faire une pause, y revenir. Des fois, je fais une pause d'une saison entière, j'y reviens la saison d'après. Et puis, en fait, là, tu prends un cap entre de progression entre 2 ans et finalement, ça marche mieux. Donc là, c'est pour ça que ça me tarde pas nécessairement d'y retourner. Je préfère presque aller essayer d'autres trucs pour y retourner peut-être encore un peu plus fort ou peut-être avec un esprit plus détaché ou des fois d'aller essayer d'autres trucs, ça me ou de prendre vraiment une grande pause dans un projet, ça m'aide des fois à revenir plus fort, plus motivé, plus frais.
Ouais, donc ça
Du
t'arrive
coup.
d'être gavé dans un projet où tu te dis non mais là j'en ai marre d'essayer
Ouais,
et
clairement.
reviendrai dans une ou deux saisons.
Ouais, mais à la fois oui, et à la fois si je retourne au pied du bloc, je vais avoir du mal à me retenir de l'essayer. Et du coup, dans ce genre de cas, je préfère carrément dire j'y vais pas du tout. Et c'est pas grave, et il y aura une autre saison après qui sera bien, et j'y retournerai à ce moment-là. Et du coup, tu vois, cette année, je suis pas du tout allé à Val Bavona alors que j'ai des blocs qui me plaisent là-bas, mais parce que l'année d'avant, j'étais pas mal allé. Et puis il y avait certains blocs que j'en avais un peu marre de les essayer, et du coup je me dis que c'est pas mal de faire une pause et d'y retourner frais et motivé l'année d'après. Pour presque redécouvrir les endroits, se réimprégner des lieux et pas que ce soit routinier.
Ouais. Il y a un bloc comme ça, dont la vidéo est sortie il y a quelques jours où tu étais allé il y a longtemps. C'est à Magic Woods, c'est la force tranquille. Je
Ouais.
regardais la vidéo et c'est assez marrant parce qu'il y a ce moment un peu magique où c'est le papa de Marine qui te passe la magnésie, c'est ça? Pour
C'est
finir?
ça, maman.
C'est sa maman.
Ouais. Et ouais,
Alors,
bah en fait, c'était cool. Ma copine Marine, ses parents font de l'escalade aussi. Du coup, c'est sympa parce qu'ils viennent de temps en temps un petit peu grimper avec nous sur des trips. Ils font du bloc aussi, c'est super cool. Et du coup, là, il se trouve que je tapais mes runs, puis eux, ils regardaient. Et je me suis retrouvé. En fait, il n'y avait pas des conditions super bien ce jour-là, mais assez pour le bas du bloc. Et du coup, je me suis retrouvé en haut du bloc. Un peu en sueur, en train de glisser sur les prises, et du coup, j'ai eu une assistance magnésie par ma belle-mère. C'est marrant.
génial. C'est le genre de bloc, tu vois, en le regardant, je me dis, mais c'est un 7A, c'est pas possible, je vais aller taper un essai dedans, ça a l'air facile. Et
Bah,
c'est
libre.
quoi? Ouais, non, mais je sais que c'est pas possible pour moi. Alors, je regardais un peu les commentaires et il y a aussi ce genre de commentaires. Alors, c'est loin d'être la seule vidéo où c'est le cas, mais c'est vrai que souvent, et c'est aussi beaucoup le cas avec les vidéos de Mélo où t'as juste le scene footage.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui disent, mais ça a l'air trop facile.
Ouais.
Et en fait, c'est ça, on ne voit pas en fait tout le travail qu'il y a eu derrière forcément pour sortir un bloc de cette difficulté, quoi.
Ouais. Eh ben, ça, c'est une des complexités du de comment dire, d'arriver à communiquer correctement sur la pratique du bloc de travail de bloc dur en extérieur, c'est qu'effectivement, la finalité, c'est que ça paraît toujours facile, quoi. Et en même temps, mettre enfin, tu vois, on va pas mettre tous nos rushs d'essais parce que c'est trop chiant à regarder. Et pourtant, la réalité, c'est que ouais, il faut beaucoup de temps pour essayer des blocs durs, des fois. Et oui, à la fin, ça a l'air facile. Du coup, ça valorise presque même pas le travail. Alors, des fois, il y a des gros fights et tout, mais en fait, c'est des tonnes d'essais pour arriver à une exécution parfaite, quoi. Mais c'est de l'essai-erreur. Et l'autre coup, j'avais lu un article qui était intéressant. Je sais plus, c'était dans Climbing Mag ou un truc comme un magazine en anglais, c'était. Et en fait, il disait que les bloqueurs, ils étaient un peu fous parce que on tapait, on mettait des tonnes et des tonnes d'essais jusqu'à devenir fou dans des bouts de cailloux qui faisaient 5 mètres de haut où il y avait 6 mouvements. Et en fait, on tape des essais, des essais, des essais, des essais, et à l'infini jusqu'à y arriver. Et en fait, il disait qu'en fait, au bout d'un moment, c'est presque une histoire. Si tu fais tous les mouvements bien intrinsèquement et que tu as les capacités physiques de faire le bloc, ben même ça suffit pas à y arriver, puisqu'il faut que tout se passe parfaitement des fois. Et du coup, au bout d'un moment, c'est tu lances la roulette et il y a un moment où il va y avoir un bon essai. Alors bien sûr, il y a des trucs qui existent qu'on a mis en place pour provoquer ça du mieux possible. Psychologiquement, tactiquement et physiquement, on fait du mieux qu'on peut pour être le mieux préparé, mais au bout d'un moment, il y a quand même un truc qui fait que l'essai d'après peut être le bon, et du coup, t'en mets un, t'en mets un, t'en mets un, et c'est pas de la proba pure, mais du coup, il y a un petit peu de ça aussi, et c'est vrai que, on, ouais, on, le travail pour arriver à faire un bloc qui se rapproche de notre limite, bah, il est, des fois, il est énorme et il est énorme pour seulement quelques mouvements et un temps d'effort qui, des fois, ça dure 45 secondes, quoi.
Mais donc,
mais l'exemple le plus marquant jusqu'à présent de ça, c'était quand même Nalé, justement, dans Burden of Dreams quand il l'avait ouvert. Hein.
Ouais.
C'était cool, ça.
Il met combien d'essais dedans déjà?
Il doit mettre 70 200. Jours. Non, ouais, mais en nombre d'essais, c'est beaucoup plus que ça, je pense.
Ouais.
C'est beaucoup plus que ça. Mais après, il a essayé, ouais, il y est allé pendant 3 ans et demi ou 4 ans. Il y est allé tous les automnes, tous les printemps, pendant 2 mois, 3 mois. Bah, tu vois, c'est. Et enfin, pour pas devenir fou, il est devenu fou, hein, je pense.
Bon, en tout cas, il y a cette capacité d'acharnement et de persévérance qu'il faut avoir, c'est nécessaire.
Ouais, et puis il faut à la fois avoir une certaine forme de patience, je pense, et à la fois, il faut quand même... ça vient pas tout seul, quoi. Faut quand même, à chaque essai, faut se préparer à se mettre à 100% tout en se détachant du résultat final. Parce que
c'est ça qui est
si tu t'énerves à chaque chute... Si tu t'énerves à chaque chute, tu vois, c'est pas amusant, quoi. On fait que tomber, en fait.
C'est ça. Faut essayer d'avoir cette espèce d'attitude énervée mais détachée.
Ouais.
Ouais.
C'est une forme d'équilibre à trouver. Alors après, chacun aussi trouve ses propres process pour être détendu, et pour y arriver aussi à la fin. Il y en a qui marchent à la frustration et qui s'énervent et tout. Moi, avant, je m'énervais un peu. Bon, j'ai appris au bout d'un moment à me détacher un petit peu, à accepter aussi le jeu que je joue, à accepter l'échec, parce qu'en fait, et à accepter en fait le fait que ce soit pas nécessairement un échec. En fait, chaque bon essai que tu mets, tu peux considérer ça comme un truc super aussi.
Ouais, c'est ce que disait récemment Aidan Roberts à propos d'un de ses blocs. Même s'il le faisait pas, c'est à chaque fois que tu mets un essai, ben en fait, c'est un pas de plus. C'est un progrès en plus, c'est quelque chose que tu as appris.
Mais oui.
Yes. On parlait des parents de Marine. Est-ce que toi, c'est tes parents qui t'ont fait découvrir l'escalade?
Oui. En fait, ma maman, elle a toujours fait un petit peu d'escalade depuis hyper longtemps. À l'époque, il s'assurait avec la corde derrière le dos. Parce qu'elle en faisait quand elle était au lycée, donc c'était il y a quand même un moment. C'est pas des grimpeurs assidus, on n'est jamais parti en voyage escalade, quoi. Mais par contre, du coup, à l'UNSS de mon collège, il y avait une section escalade. Et en sixième, ma mère m'y inscrit, pardon. Et j'aimais pas trop. je préférais faire, j'avais envie d'aller faire du foot. J'aimais pas trop.
C'était le cadre scolaire ou c'était juste l'activité qui te branchait pas?
Non, l'activité au début, ça me branchait pas plus que ça.
Yeah.
Mais peut-être que c'était peut-être l'activité de l'escalade dans le cadre scolaire, je sais pas trop. Mais je me débrouillais bien, mais ça me, ouais, non, j'avais, mes potes, ils étaient ailleurs, j'avais envie d'aller voir mes potes et puis voilà. Mais par contre, du coup, vu que je me débrouillais pas si mal, il y avait des compétitions UNSS qui se passaient par équipe. Et en fait, il se trouve que dans mon collège, il y avait les deux fils Tribou, il y avait Alexandre et Adrien Tribou, qui étaient dans mon collège, et qui avaient un an et deux ans de moins que moi, enfin qui ont un an et deux ans de moins que moi. Et du coup, le prof du collège, il a fait une équipe et il manquait quelqu'un pour l'équipe et il m'a dit, ah bah vas-y, viens, viens dans l'équipe. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette équipe-là, avec Alex, Adrien, qui étaient des super grimpeurs, qui eux grimpent depuis qu'ils sont nés, un autre gars, je crois, et puis moi qui suis arrivé en pièce rapportée. Et en fait, on avait deux compètes UNSS à faire. La première, je me suis fait éclater. Et puis en fait, entre les deux compètes, du coup, après la première compète, vu que je me suis bien entendu avec Alexandre et Adrien, ils m'ont dit « Ah bah viens t'entraîner avec nous, tu vas voir, ça va être marrant. » Et du coup, je suis allé m'entraîner avec eux et en fait, j'ai jamais arrêté. La deuxième compète, ça s'est beaucoup mieux passé et finalement, j'ai pris le virus direct. Mais je pense que c'est le fait d'avoir trouvé des bons copains... Et c'était pas l'activité. Enfin, j'ai été conquis par l'activité, le fait de grimper, parce que c'est devenu un moyen d'expression et un truc important pour moi et un truc vital. Mais par contre, je pense que je suis aussi tombé. Je me suis bien adapté. J'ai beaucoup aimé l'état d'esprit. Ouais, j'ai bien aimé les vibes qu'il y avait autour de la grimpe, quoi. Et d'ailleurs, on faisait du pan à l'époque, on faisait des séances de bloc dans leur pan.
Avec donc JB aussi?
Avec JB, ouais, qui est devenu mon mentor depuis, quand même.
Trop bien.
Enfin, au fur et à mesure, devenu mon mentor. Et du coup, on faisait des séances de pan dans leur pan, et moi, j'étais hyper inspiré, et puis j'adorais cette ambiance, quoi. On était dans un garage, on se tapait des essais jusqu'à être mort, et chacun s'encourageait, et j'ai adoré cette ambiance-là. Et d'ailleurs, j'aime toujours ça, et en fait, c'est pour ça que je continue à faire du bloc, puisque je me retrouve là-dedans.
Ouais, alors tu
Mais...
as commencé directement par le bloc, sans passer par la case escalade sportive, falaise.
Si, 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 en fait, j'ai commencé en falaise, c'est ça le truc. L'UNSS, ça se passait en falaise. Donc, j'ai
Ok.
commencé vraiment en falaise. Et puis, du coup, vu que je venais du sud de la France, eh ben, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de choses pour faire du bloc. Donc, on s'entraînait au pan. Mais par contre, tous les week-ends, on était en falaise.
Et c'était dans le Vaucluse, ça, non?
Exactement, ouais.
Ok.
Autour de Aix-en-Provence, quoi. Et du coup, on allait, du coup, tous les week-ends, mes parents, ils m'emmenaient chez JB. Hop, on allait grimper avec Alex et Adri, JB et ses potes. Et tous les week-ends, on grimpait en gros dans les falaises du Luberon, à Lourmarin, à Bioulx, un petit peu à Saint-Léger, à Orgon, Sainte-Victoire, tout ça. Et du coup, en fait, nous, c'était de la falaise qu'on faisait. Et sauf que à la salle, quand même, en panneau, je me démerdais bien. Et du coup, ça me motivait beaucoup. Et pour le coup, c'est quand j'ai quitté. Du coup, j'ai fait ça jusqu'en terminale, en gros. Jusqu'à mes 18 ans, et après, à la suite de la terminale, pour différentes raisons, j'avais besoin de partir d'ici, du sud, et du coup, je suis allé au pôle à Voiron, en interne. Et au pôle à Voiron, du coup, là, je me suis entraîné spécifiquement et exclusivement pour les compétitions pendant 2 ans.
Compétition de bloc.
Ouais, que pour le bloc. Alors, il se trouve que j'avais encore des restes en diff parce que je faisais beaucoup de falaises avant, et du coup, pour ma dernière année jeune, j'avais été champion de France de bloc et de diff aussi, mais c'était un hold-up complet. J'avais fait quelques Coupes d'Europe et des trucs comme ça. Et après, suite à ces 2 ans, j'ai été intégré au pôle de Fontainebleau pour m'entraîner pour les compètes de bloc. Mais par contre, j'ai toujours ce qui m'a ce qui en fait en arrivant du coup à Voiron et ensuite à Grenoble, j'ai découvert un peu le bloc en extérieur. J'en avais déjà fait quelques fois à la Capelle, à Nantes, mais c'était vraiment un peu à l'aile froide, mais c'était vraiment ponctuel. Et là, j'ai découvert le bloc en extérieur un peu dans les Alpes, autour de Grenoble, à Rioux-Perrault, Grand Sablat, et à Fontainebleau. Du coup, on y a accès à Fontainebleau. Et là, par contre, j'ai capoté. C'était vraiment ce qu'il me fallait, quoi. Et du coup, même en faisant des compètes, je continuais enfin, j'avais besoin d'aller dehors, et puis plus ça. Ça a pris une part de plus en plus importante pour moi. Et puis ensuite, au bout d'un moment, les compètes, ça marchait assez bien. Mais je n'étais pas non plus exceptionnel. Du coup, j'ai préféré complètement arrêter les compètes et me focaliser exclusivement sur le bloc en extérieur. Ouais.
Tu retiens quoi, toi, de cette période de compétition?
Ah, c'était cool, j'ai aucun regret. C'était des super expériences. Humainement, c'était cool aussi, parce tu rencontres quand même des gens. J'ai eu quand même la chance d'être sélectionné sur quelques compétitions internationales. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis d'aller au Japon, en Chine. J'ai même c'était pas dans le cadre d'une compétition, mais j'avais participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse en tant que on était en sport de démonstration, donc c'était pas une compétition. C'était en Chine. On devait pendant 2 semaines, j'étais avec une équipe internationale de jeunes grimpeurs, on devait promouvoir l'escalade auprès du CIO, faire des démonstrations, faire de l'initiation pour les populations locales. En fait, et tout ça, si j'avais pas fait de la compète, j'aurais pas eu accès à ça, quoi. Du coup, c'était hyper riche. Après, la compète, c'est faire de la compète, c'est un moyen quand même, une motivation pour s'entraîner et devenir meilleur. Enfin, pour moi, ça m'a appris à m'entraîner, ça m'a appris une certaine rigueur, ça m'a appris aussi à
La
être fort à
structure.
un moment donné. Ça apprend plein de choses, c'est hyper riche d'enseignements pour plein de choses pour l'escalade. Après, c'est sûr que si tu veux être le meilleur en extérieur et que tu fais des compètes et que tu t'entraînes toute l'année dans un gymnase, tu mets pas toutes les chances de ton côté pour ça. Mais par contre, pour devenir un bon grimpeur, je pense qu'il y a plein de trucs intéressants à ça. Et après aussi, ça m'a permis d'être au contact du haut niveau et être au contact du haut niveau, je pense que même pour le bloc en extérieur, c'est quelque chose qui est bien, quoi. pour savoir se pousser, pour tu vois des gens qui sont plus forts que toi, tu essaies de t'accrocher. Du coup, tout ça, et puis c'est inspirant aussi de voir des gens qui s'arrachent sur des compétitions et tout, ça motive quand même.
Ouais, c'est marrant, il y a cette photo de toi où on te voit à côté de Mika Mawem, Jérémy Bonder aussi, qui vient d'ailleurs d'annoncer sa retraite.
Ouais.
Et Mika qui se retrouve donc encore en championnat du monde actuellement.
En finale, ouais.
Et toi, t'as arrêté la compétition finalement en 2017. Tu dis que c'était un choix que t'as jamais regretté.
Ouais.
Tu peux expliquer pourquoi?
Bah ouais. Bah parce que je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'étais de mieux en mieux chaque année. Hein. J'ai peut-être une année où c'était un peu moins bien, mais en gros, j'étais bien. Enfin, je m'en sortais de mieux en mieux. J'aurais pu continuer, pousser jusqu'à la fin d'une carrière plus âgée, quoi. Mais j'avais trop envie d'aller grimper dehors, et du coup, je me suis dit, mais si je veux avoir une chance de faire quelque chose en compète, il va falloir que je m'y mette à 100%. J'aime pas faire les choses à moitié, donc faudra y aller à 100%, passer ma vie dans des gymnases et tout ça. Ou alors, je peux aller grimper dehors et essayer tous les blocs durs qui me font rêver et que j'ai envie d'essayer, et peut-être essayer d'en faire un maximum. Et du coup, pour moi, la question, elle s'est pas posée. C'est vraiment dehors, au pied des blocs, dans des caves ou dans des endroits magnifiques, mais dehors, au pied des cailloux, que je me sens le mieux, et du coup, et où j'arrivais aussi le mieux à m'exprimer. Et du coup, j'ai fait le choix, ouais, vraiment d'y aller à 100% là-dedans et d'arrêter complètement la compète. J'ai jamais refait la moindre compète, quoi. Mais, après, des fois, j'y repense, je me dis, ah, ça pourrait être rigolo de faire un open, un truc comme ça. Mais il se trouve que, pour moi, c'était ça le choix logique. Après, je m'étais quand même dit dès le début qu'il y avait aucune chance que je reprenne à un moment donné. J'aime pas les comebacks. J'y crois pas. Parce que je me dis, mais il n'y a pas de raison que si j'ai arrêté il y a 3 ans, je sois meilleur maintenant en ayant fait complètement autre chose. Enfin, ouais. Donc, pour moi, c'était une évidence de pas reprendre, en tout cas. Et du coup, vu qu'aussi, je me suis épanoui en grimpant dehors, en développant des nouveaux blocs, en visitant des nouveaux endroits, du coup, il n'y a aucune raison de regretter ça, quoi.
Yes. En même temps, tu faisais tes études, c'est ça?
Ouais, j'ai fait je voulais finir mes études. Du coup, je faisais un master de mécanique théorique à l'université de Grenoble. Du coup, c'était quand même... Alors, je l'ai aménagé, hein, donc ça m'a permis d'avoir du temps pour grimper. Mais les dernières années d'études, c'était quand même intense. Je voulais finir mes études, ça me tenait à cœur, et les finir correctement. Et je voulais continuer ma pratique de grimpeur. Et j'avais envie de me pousser, de le faire en étant au top de ce que je pouvais faire. Et du coup, c'est aussi difficile de tout faire, grimper. Si t'es grimpeur professionnel et que tu fais que de l'escalade, peut-être que tu peux prendre un break d'un mois et demi faire des trips de 2 semaines à droite, à gauche, pour aller grimper dehors entre des cycles d'entraînement. Quand tu mets les études au milieu de tout ça, ça marche plus, quoi. Il y a un truc...
Ça fait trop.
Ouais, ça fait trop, je pense. C'est juste impossible. Et du coup, si c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a des trucs que tu fais mal, et du coup, c'est dommage. C'est un peu... Il faut faire des choix, il faut apprendre à prioriser, et je pense qu'il y a des compromis qui sont trouvés, et pour moi, c'était ça le bon compromis, quoi.
Yes, alors je sais pas si tout le monde a vu ça, mais à la Coupe d'Europe jeune, qui était à Chambéry il y a quelques mois, c'était en avril, t'as fait une conférence à propos d'une étude dont t'es co-auteur à l'université Aix-Marseille.
Ouais. Alors en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'université. Enfin, j'étais étudiant à Grenoble, mais ça se passait à l'université de Marseille avec mon maître de stage, c'était Laurent Vigouroux, avec qui je me suis associé ensuite pour créer l'entreprise Smartboard. Et du coup, ça me permet de... Ça, c'est encore une expérience qui est hyper cool. C'est d'être au contact de la recherche, de ce qui se fait en recherche en escalade. Parce que du coup, Laurent, lui, il est enseignant-chercheur en bioméca et en physiologie. Donc moi, je faisais de la mécanique théorique, donc plutôt méca pure. Et du coup, ça m'a donné des notions de biomécanique et de physio. Et en fait... Laurent, lui, depuis le début de, c'est un grimpeur aussi, et depuis le début de ses études, Lui, toutes ses études, elles sont axées vers l'escalade. Donc, il s'est vachement intéressé aux propriétés biomécaniques et physiologiques des doigts, des avant-bras, des bras et des membres supérieurs en général, et notamment chez les grimpeurs. Et du coup, il a établi, il a écrit pas mal d'articles, il a une grande connaissance de ce qui se passe au niveau physio dans les avant-bras, notamment dans les bras. Et du coup, on a créé un outil qui s'appelle, c'est lui qui avait eu l'idée au départ, on a créé un outil qui s'appelle la Smartboard, c'est des poutres instrumentées avec des capteurs de force. Et ces poutres-là, on les a
reliées. Toi, tu joues quel rôle dans la création de la Smartboard, du coup ?
Eh ben, je suis associé de l'entreprise. Et en fait, on est deux dans cette aventure. Au départ, on était trois. Il y a un associé qui est parti. Et du coup, on est deux dans cette aventure. Donc moi, je gère un peu l'aspect administratif. Il y a mon père qui mène un petit peu quand même. Il y a ma copine Marine qui me file un coup de main. On est hyper bien entouré. Des fois, les parents de Marine aussi. On est hyper bien entouré dans cette aventure-là. Et du coup, moi, on est deux, et il faut qu'il y ait un président, donc c'est moi. mais du coup, je travaille sur le développement, je travaille un peu sur la com. Malheureusement, j'en fais pas assez, ce serait bien que j'en fasse plus, mais on n'a pas le temps de tout faire. Sur le développement des produits, sur un peu le commerce. Donc, je fais plein de trucs, quoi. C'est la vie de start-up. T'as intérêt à savoir faire plein de trucs différents, quoi. Et donc, moi, j'ai été appelé sur ce projet au départ. On avait une grosse Bertha de laboratoire, et l'idée, c'était de finaliser des prototypes qui soient utilisables pour la Fédération française de la montagne et de l'escalade pour leur faire des outils d'entraînement connectés. Donc, on a pris le produit qu'on avait, on a essayé de le rendre plus compact, facile à installer, et on l'a, au lieu que ce soit relié à... un ordinateur et un gros programme, on l'a relié à une application qui est disponible sur le Play Store. Et du coup, on a livré la Fédé de deux prototypes, et ensuite, suite à ça, on a décidé de s'associer et de lancer une vraie entreprise, quoi.
Alors, c'est qui le public, du coup, de la Smartboard?
Alors du coup, en fait, au départ, c'était un pur outil d'entraînement, plutôt typé très haut niveau. Quand on a commencé à tester avec Laurent, en fait, on s'est vachement pris au jeu. On a trouvé que c'était quand même vachement ludique d'avoir un retour de l'effort, d'avoir un score, d'avoir un retour de l'effort.
Exactement le... L'intensité de l'effort. T'es toujours là, tu m'entends?
Ouais.
Ouais, attends, je te vois plus.
Excuse-moi, il fallait que je réponde très rapidement à un message. Je m'excuse. Et du coup, c'est une poutre qui est liée avec des capteurs. Donc là, j'en ai une. C'est une poutre basique finalement, mais sauf qu'on a installé des capteurs derrière. Et du coup, ça mesure, si tu tires un peu, ça veut mesurer la force exacte qui est appliquée sur la poutre.
Sur chaque main, donc s'il y a un déséquilibre, par exemple.
Voilà, exactement. Et du coup, en fait, au début, tu te dis, c'est un truc qui est hyper scientifique. Au départ, on l'a créé sur la base de recherche scientifique, c'était très sérieux. Il y avait un diagnostic d'entraînement qui est difficile et tout ça. Et le fait que tu as un feedback direct et qu'il y ait une interaction avec l'application, ça rend l'outil en lui-même déjà beaucoup plus ludique qu'une poutre d'entraînement classique où des fois, t'es là, tu fais tes suspensions, tu te suspends pas, mais bon, c'est pas évident de savoir quoi faire sur une poutre. Et du coup, en faisant tester à des gens, les gens, ils ont hyper accroché, et même des gens débutants finalement, parce que tu fais une traction, le truc qui te donne ton score de puissance, et en fait, c'est assez challengeant. Tu te tires la bourre avec ton pote, tu essaies de comprendre, ah mais si je fais ça, est-ce que ça change ci, est-ce que ça change cela? Et du coup, au départ, le public visé, c'était vachement haut niveau, et finalement, on a essayé de rendre le truc plus didactique, un petit peu plus accessible, plus ergonomique, pour le rendre accessible. Finalement, notre cible, c'est toute personne qui est intéressée par l'entraînement, quoi, et qui aime bien les chiffres. Alors du coup... Les utilisateurs, il peut y avoir plein d'utilisateurs différents, mais grosso modo, on a plein de gens qui aiment bien les chiffres, qui sont fatigués
sur leur entraînement.
Voilà, ils ont un peu des notions des fois de physique, du coup ils ont des scores de puissance, des scores de force, ça leur parle un peu.
Et ça peut être intéressant aussi pour les coachs, ouais.
Ouais, pour les coachs, voilà, bah ça c'est encore autre chose, mais finalement, les coachs, des fois, en fait, il y a certaines notions de score et tout qui sont pas toujours très évidentes. Et du coup, bah, pour certains coachs, en fait, on a aussi à essayer d'accompagner les gens pour justement comment dire, les initier à la quantification de l'entraînement en escalade, parce que jusqu'à présent, la quantification en escalade, ça existait pas, quoi.
Ouais,
À
ou alors
part,
c'est noter sur un cahier ce que tu fais.
alors c'est une forme de quantification déjà quand même. Ben, tu notes ton nombre de répétitions, sinon tu vas à la salle de muscu, t'es là, ah ben, je soulève tant de kilos, je fais ma séance d'après, j'ai progressé, j'ai pas progressé, machin. Et du coup, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est une quantification précise, vraiment des capacités des grimpeurs, donc aussi les capacités de résil, les capacités de puissance des bras, donc d'explosivité, toutes sortes de trucs. Et c'est ça qu'on a essayé d'apporter à travers Smartboard, à travers un outil qu'on espère être en tout cas commencer à être le plus facile d'utilisation possible. Moi, j'aimerais aller encore plus vers de la vulgarisation et essayer d'apporter. Maintenant, on a mis un échauffement qui aide aux gens, qui permet aux gens de s'échauffer facilement en mode. Au début, tu te suspends sur des bacs et puis ensuite tu tires 30% de ton poids, puis 50, puis petit à petit, ça te fait monter en chauffe. Parce qu'en fait, c'est pareil, arriver à s'échauffer, c'est pas toujours facile. Et donner accès à l'entraînement à travers un outil pour des gens qui n'ont pas nécessairement accès à un coach ou des trucs comme ça.
Ouais, et c'est intéressant aussi cet aspect ludique, t'en parlais là. C'est un peu aussi le cas de tous les outils style Kilter, Moonboard,
Ouais.
etc. Il y a cet aspect ludique qui fait
Ouais.
qu'on a envie de, on a envie d'y retourner, ouais.
Et l'aspect connecté, il est en fait vachement ludique, hein. Il y a l'interaction, il y a le fait d'avoir une communauté aussi derrière. Quand tu es sur la Kilterboard, tu es là, tu regardes, ah, mais ce bloc-là, il a été fait par Jimmy Webb à l'autre bout de la planète, ça excite les gens, tu vois, ou mes gosses, ou je sais pas qui. Et tu peux l'essayer, ça donne accès quand même à quelque chose, finalement, aux gens. À se dire, ah ouais, je peux me comparer avec tel ou tel grimpeur. Les gens, ils aiment bien la comparaison, c'est normal, ils ont besoin de références. Et du coup, ouais, c'est vrai que ces outils connectés, ils arrivent de plus en plus et ils ont la cote. Et moi, je trouve que c'est bien, c'est hyper amusant. Alors après, il faut pas peut-être pas passer sa vie devant son écran et son téléphone. Mais il faut pas oublier que quand tu fais une séance de Kilterboard, il y a quand même d'autres gens qui grimpent à côté de toi et qui sont peut-être aussi super cool. Et t'es pas obligé d'être sur ton tel. Mais je trouve que ouais, si, ça apporte quand même quelque chose, ces outils-là. Enfin, moi, en tout cas, je suis un bon adepte.
Ah
Ça
donc,
donne du goût.
il y a donc la smartboard, et il y a aussi un autre outil qui se connecte, en fait, qui se met derrière n'importe quel fingerboard, c'est ça?
Ouais, alors du coup, il y a la Smartboard Pro qu'on vend plutôt aux salles d'escalade, aux clubs, aux coachs, qui, elle, on vend un package complet avec. Du coup, la poutre, elle est prédéfinie, c'est nous qui l'avons créée parce qu'on a nos références dessus. Elle est assez simple, mais elle marche bien. Et du coup, tu as une application, une tablette avec. Et ensuite, quand on l'a présentée sur des salons ou des événements, des compètes, pas mal de gens qui nous disaient, ah, mais il est bien votre produit, j'aimerais bien avoir une à la maison, mais c'est un peu cher, notre produit est cher quand même. On a cherché à faire un truc haut de gamme, mais du coup, il y a le prix qui va en face aussi. Et aussi, les gens nous disaient, ah, mais moi, j'ai une Beastmaker à la maison, est-ce que je pourrais enlever votre poutre et mettre celle que j'ai déjà? Et ou telle autre personne m'a dit, ah, mais moi, j'ai ça. Et puis aussi, il y a des gens, ils aiment bien se bricoler leur truc fait maison. Et du coup, on s'est dit, ah, bah tiens, pour réduire les coûts, on va pas faire un package complet où on vend une tablette, une poutre, machin. On va juste faire une plateforme de force. Alors, on a un petit peu réduit le nombre de capteurs. La précision, elle est quand même très correcte, mais légèrement moins précise que sur la Smartboard Pro nécessairement. Et on a fait un produit qui est plus léger, peut-être qui serait pas utilisable H24 dans une salle d'escalade comme la Smartboard Pro. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, OK, tu mets une plateforme de force sur ton mur. Donc en gros, c'est ce qu'il y a derrière là. Et dessus, tu visses ta Beastmaker que tu as chez toi. Et nous, notre travail, c'est d'adapter l'application aux poutres du commerce et de donner des exercices et de créer des exercices qui soient adaptés aux poutres.
Donc, tu as la
Et
même
du
app
coup,
que pour la smartboard.
voilà,
Ouais.
il y a la même app, sauf que tu switches de Smartboard Pro à My Smartboard, on l'a appelé comme ça, et ensuite tu te connectes, donc il y a un nombre de comptes limité, c'est en gros, c'est une application qui est utilisable pour toute la famille, quoi, en gros, c'est ça qu'on s'est dit. Et puis ensuite, tu te connectes et tu sélectionnes la poutre que tu utilises. Et ensuite, bah, du coup, les exercices, ils sont adaptés à la Beastmaker. Par exemple, qu'on a commencé avec les deux Beastmaker, on est en discussion avec d'autres marques pour, en gros, voilà, utiliser... en gros, l'idée, c'était vraiment de donner une nouvelle dimension à un produit d'entraînement que les gens ont déjà chez eux. Et je pense vraiment que ça apporte une autre dimension, que ça a rien à voir avec l'utilisation d'une poutre classique, quoi. Et du coup, ça en fait, tu as une poutre basique qui est finalement un bout de bois qui est très joli, mais est utile si tu sais en faire, hein, bien sûr. Mais du coup, ça.
Tu peux lui donner une seconde vie si,
ouais.
Si t'en as un peu marre, ouais.
Ça en fait quand même un outil d'entraînement, je trouve, assez, assez haut de gamme dans une compacité. C'est dur de battre le format de la poutre quand même pour quelqu'un qui est dans un appart. Et finalement, t'es chez toi, tu peux te faire tes séries de résis, tes séries de bras. Si à côté de ça, t'as un tapis de yoga et que tu fais un peu des abdos, déjà, tu peux te faire une bonne prépa physique, quoi, pour les gens qui sont...
En parlant de Rési, c'est un des sujets que vous abordiez donc, dans l'article que t'as fait donc, sur cette étude avec notamment donc, Laurent Vigouroux, tu disais.
Ouais.
Ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes d'extraire, en tout cas, de cet article. Mmh. Déjà, c'était quoi la raison? C'est quoi le pourquoi en fait de cet article? Vous essayez
alors,
de répondre à quelle question?
Il faut que j'arrive à vulgariser ça un petit peu de manière rapide. Mais du coup, l'idée c'était de se dire, pour les capacités des doigts et des avant-bras des grimpeurs, en gros, déjà pour commencer de manière très basique, il n'y a pas de muscles dans les doigts. Les muscles ils sont dans les avant-bras. Et du coup, on a cherché... à définir. On a testé des protocoles d'entraînement pour savoir quel protocole faisait progresser telle filière. Donc, on a identifié trois filières. La force des doigts. Donc, la force, c'est la force max sur un effort court. On a identifié la résistance, qui est en gros, combien de temps, si tu fais, par exemple, des séries de suspension, combien de temps tu mets avant de subir les effets de la fatigue et que ton niveau de force y chute. Donc si tu fais un niveau de force élevé et répété, combien de temps tu mets avant de chuter? Et une fois que t'es fatigué, une fois que t'es éclaté, et ben t'as un niveau qu'on appelle un niveau d'endurance ou de continuité de manière plus vulgaire, c'est qu'en gros tu chutes pas indéfiniment une fois que t'es daubé, tu atteins un autre type de palier et du coup ce palier là, où est-ce qu'il se situe par rapport à ton niveau de force initial? Donc ça, c'est les trois filières qu'on voulait essayer de développer à travers des protocoles d'entraînement. Donc on a fait un protocole visant à développer la force, ce que les gens utilisent de manière très classique. Donc en gros, pour la force, c'était une suspension main droite très intense à 100% de ta force maximale. Une suspension main gauche, pareil. Ensuite, tu prends 2 minutes 30 de repos, tu refais pareil, donc vraiment aucune notion d'endurance ou là-dedans. Ensuite, le deuxième protocole, on disait aux gens vu que avec la Smart Board tu peux mesurer le niveau d'intensité que tu fais, on disait aux gens ton niveau de force max il est à temps, et ben tu vas faire des suspensions à 80% de ce niveau de force max. Mais par contre, au lieu d'en faire une, tu vas en faire une de 10 secondes, tu vas te reposer seulement 6 secondes, tu vas en refaire une de 10 secondes et ça 12 fois. Donc on faisait des séries de 12 moves. Avec un repos, puis une deuxième série. Et là, si une fois que les gens passaient en dessous de leur seuil, passaient en dessous d'un certain seuil, on les faisait arrêter la série. On ne voulait pas qu'ils aillent trop loin dans l'effort. Et le troisième protocole d'entraînement qu'on a fait tester, c'était encore un niveau d'intensité en dessous. On faisait faire aux gens des séries à 60% de leur force maximale. Et donc là, par contre... on leur faisait faire des séries de 24 suspensions et il fallait qu'ils aillent au bout en tirant tout ce qu'ils pouvaient à chaque suspension. Enfin, tout ce qu'ils pouvaient. Au début, tu maintiens 60% et une fois que tu chutes, ben, on les faisait continuer quand même. Et du coup, ce qu'on a identifié dans les résultats, et c'est ça qui était très intéressant, c'est que en faisant de la force max, eh ben, tu développes ta force max. Ça, c'était attendu, mais on l'a vérifié quand même. Mais tu développes aussi un petit peu tes capacités de résistance. Et en revanche, tu développes très peu ou quasi pas tes capacités d'endurance. Ensuite, en faisant le protocole de résistance, donc à 80%, tu développes ta résistance de manière significative. Mais tu développais aussi ton niveau de force max de manière significative et aussi ton niveau d'endurance. En fait, en faisant le protocole de résistance à 80%, les gens, ils ont augmenté leurs trois filières de manière vraiment significative. Et ensuite, le dernier truc, c'est en faisant le protocole d'endurance, donc à 60%, les gens, ils ont développé leur capacité d'endurance, mais aussi leur capacité de résistance de manière significative et très peu leur niveau de force max. Mais du coup, la conclusion du truc, c'est que tu dis, punaise, mais en fait, l'exo à 80%, finalement, t'es pas à 100% de ta force max. Donc, tu pourrais te dire, ouais, mais pour faire de la force max en bloc, machin. Mais en fait, quand même, ça développait vachement la force max. Et du coup, on a trouvé que ce protocole, il était hyper intéressant. Il était hyper intéressant pour le développement des capacités de la force des doigts, enfin des capacités en tout cas des avant-bras, quoi. Des doigts et des
Ah,
avant-bras.
ce qui est hyper intéressant, c'est que effectivement, on se dit ma séance, il faut que j'en sorte mort, que j'ai des courbatures pendant 3 jours. Faut que je... Et si ma force max la semaine dernière c'était de soulever 40 kilos, cette séance il faut que je fasse 42, etc. Et à toutes les
Ouais.
séances, il faut que j'augmente la charge. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que ça montre que non, non, pas du tout, en fait. En fait, tu peux très bien
Ouais.
rester à un niveau d'intensité qui est en dessous de ton niveau max et en
Ouais.
plus développer plus de filières.
Ouais. Alors attention, quand même, 80%, c'est hyper élevé comme niveau d'intensité. Si tu le testes, l'exo, tu te rends compte que 80%, en fait, c'est quand même pas des blagues. Il faut être prêt et faut être chaud et tout. Mais par contre, moi, je suis persuadé que l'escalade, c'est un sport d'intensité. Même si tu fais de la diff, c'est quand même des efforts qui sont relativement courts. Alors, à part peut-être quand tu passes sur des voies très longues en falaise, mais même il y a des pas de bloc, c'est quand même une gestion de l'intensité qui est importante. Et du coup, ouais, il sait bien d'être quand même pas toujours aller se buter jusqu'à être complètement mort, parce que je pense qu'il faut garder un certain niveau de fraîcheur pour performer en escalade. Mais bon, ça, c'est. Je suis un bloqueur aussi, donc j'ai quand même plus cette. Je suis plus dans ce mode de fonctionnement.
Ça me
Et
fait
du coup,
penser, vas-y, pas, excuse-moi.
non, non, c'est bon. Je dis, du coup, ça s'est vérifié aussi à travers l'étude où, en faisant du coup quand même de la haute intensité, tu développes même tes filières d'endurance quand même.
Non, ça me fait penser à une étude, tu dois la connaître, c'est celle de Kisbar, donc qui a été reprise pas mal par Emil Abrahamson et dont on a beaucoup parlé ces 2 dernières années.
Ouais.
Où en fait, lui, son protocole, c'est de
Il faisait de
garder
la
les pieds
loi.
au sol. En
Ouais.
fait, ils appellent ça des no hangs. Donc en fait, t'as pas les pieds suspendus, t'es à 80% de ton poids à peu près. Et tu le fais,
Ouais.
10 répétitions, séparées d'au moins 6 heures, donc 2 fois
Ouais.
par jour. Et lui, il a
Ouais.
vu des gains énormes. Et en fait, c'est
Ouais.
marrant parce qu'il y a plein de gens qui s'aperçoivent qu'au lieu de faire des séances à mort, en essayant à chaque fois de battre leur personal best, quoi.
Ouais.
Il vaut mieux aller sur des séances plus douces, quoi, de...
Ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que nous, on a justement, avec la board, ça, on a appris à faire de la gestion de l'intensité en escalade. Et par exemple, quand tu vas grimper à la salle, il n'y a pas de. Enfin, si tu vas grimper, la plupart des gens, ils vont grimper à la salle, ils vont dans leur niveau max autant que possible. Mais du coup, ils font du 100% tout le temps. Mais il n'y a aucun sport où tu t'entraînes à 100% tout le temps. Dans le cyclisme, c'est hyper cadré. Ils s'entraînent à 60%, machin. Ils font en muscu, dans plein de sports, la gestion de l'intensité, elle
Il y a
est
aussi
déterminante dans la préparation.
un risque de blessure quand même à 100% de
Bah, tout
ton...
à fait. Et du coup, je pense que cette étude-là, elle est intéressante dans la mesure aussi, en plus, à mon avis. Par exemple, Émile, dans son cas, bah, il continue à grimper à la salle à côté ou à s'entraîner à aller grimper. Et quand il allait grimper, je pense qu'il faisait du 100%. Mais du coup, si ça se trouve, en fait, il a trouvé un super équilibre dans le fait de faire des séances à basse intensité et à côté de faire de la haute intensité. Mais ça, il y a encore un travail énorme, je pense, en escalade. Bon, alors, bien sûr, les athlètes de haut niveau, peut-être que ils sont hyper bien accompagnés, ils ont plus de notions, ils ont des prépas physiques qui viennent notamment d'autres domaines qui sont capables, pour tout ce qui est cycle de prépa physique, d'adapter leur intensité de l'entraînement. Mais je pense qu'il y a encore, il y aurait possibilité dans l'escalade, même pour le tout public, mais d'apporter une sorte de connaissance pour savoir comment est-ce qu'on fait correctement un cycle d'entraînement et des trucs comme ça. Et c'est vrai que sans outil de quantification, c'est pas toujours évident de le faire. T'arrives à la salle, tu dis, ah, aujourd'hui, il faut que je fasse une séance à 60%. Ok, ça veut dire quoi? Et du coup, tu descends des côtes et tout, mais c'est moi, il y a des séances des fois où j'ai pas envie d'aller très loin dans l'effort, je fais des séances cool, ça me fait du bien aussi. Mais avant, je le faisais pas du tout, hein, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à te connaître.
Ouais, c'est dur d'ailleurs hein, quand tu te dis ça et en fait tu te sens bien et tu finis
En
ta
fait,
séance à
envie
faire des
de
trucs durs.
bouger. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est faut apprendre à se connaître au fur et à mesure des années. Et je pense que ça fait partie du truc, quoi. Ouais.
Ok,
Et
très
ça
cool.
dépend des tempéraments aussi, hein. Il y a des tempéraments, ils ont tendance à pas trop se pousser, justement, être un peu tranquille. Et puis il y en a d'autres, il faut arriver à les calmer parce qu'ils vont tout le temps aller jusqu'à la blessure, quoi. Donc ça dépend vachement des gens. Et du coup, c'est vrai qu'avoir des vraies notions quantifiées là-dessus, bah, ça permettrait de cadrer pour tout le monde, presque.
Mais on peut le dire, hein. En fait, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on peut dire que d'un certain point de vue, l'escalade, on a encore énormément de choses à apprendre sur l'entraînement, sur ce que c'est que de s'entraîner correctement pour arriver au maximum
Ouais,
du potentiel humain, quoi.
tout à fait. Je pense que c'est un sport qui est très jeune. Alors ça bouge beaucoup maintenant. Maintenant, il y a les JO et il commence à y avoir de l'argent pour les compètes,
Et
notamment.
pas mal d'études aussi maintenant.
Et du coup, des études qui sortent également, parce que ça a commencé à intéresser les gens. Il y a de plus en plus de grimpeurs, donc aussi il y a de plus en plus de chercheurs intéressés par ça, je suppose. Mais oui, c'est clair que c'est un sport jeune, mais du coup, c'est une période qui est quand même assez passionnante aussi pour le sport, parce qu'il se passe quand même plein de choses. Donc, mais oui, c'est clair que dans les prochaines années, le sport, il va évoluer et il va y avoir des nouvelles méthodes qui vont être mises en place. C'est certain, mais c'est super cool. C'est bien.
Yes. On a parlé pas mal d'entraînement.
Ouais.
Ça devait pas trop être le sujet de ce truc. Moi, je préfère parler un peu d'extérieur en général
Ouais.
avec les personnes que je reçois parler des choses qui les font rêver notamment. Et je me demandais si ça te va hein, de revenir à des sujets un peu plus sur l'escalade d'extérieur et ben justement des choses qui te font un peu toi rêver en ce moment. Alors on a parlé de ton projet. Mais il y a peut-être d'autres choses qui te font rêver à plus long terme, peut-être.
Il y a toujours plein de trucs qui me font rêver. Après, c'est les dernières années, je me suis beaucoup focalisé dans essayer de réaliser des blocs qui sont vraiment durs pour moi. Donc, j'ai passé du temps à travailler des blocs, à essayer et à des trucs qui me semblent possibles, mais qui sont quand même très durs. Du coup, c'est vrai que ma pratique, elle s'est axée quand même pas mal là-dessus ces dernières années. Ce qui est cool, c'est que je me suis aussi mis à explorer un peu plus, à essayer d'aller trouver des blocs par moi-même, explorer un peu plus ce qui était inconnu. Et ça, c'est vrai que c'est une pratique qui m'anime vachement, quoi. Essayer d'aller marcher un peu, trouver des nouveaux trucs. Ou alors, comme je fais dans Permanent Midnight, là, aller voir des projets qui sont réputés très durs ou personne jusqu'à présent a peut-être fait les moves ou des mythes un peu comme ça m'anime aussi vachement ou de la manière ce que font Nico et Camille Ablo dans Imhotep Assim, je trouve ça m'anime vachement, je trouve ça trop cool.
C'est un projet qui te botterait d'essayer?
Ouais, alors après moi j'ai envie de tout essayer tout le temps, je suis hyper curieux. Donc ouais, ça a l'air, le bloc a l'air incroyable, et puis en plus c'est un truc qui avait été essayé à l'époque par Julien Nadiras, qui avait ouvert Imhotep Debout, et qui est un gars que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, et qui a ouvert des blocs, beaucoup de blocs à Blo, beaucoup de blocs autour de Grenoble, à Rioux-Pérou, et qui a toujours eu une vision pour le bloc en extérieur. Et du coup je sais que c'est un truc qui m'en avait parlé, donc ouais, l'hiver prochain. A priori en novembre, on devrait se retrouver à Blo un moment. Donc l'idée, ce serait que j'aimerais bien aller voir au moins. Après, je sais pas si j'ai envie d'aller m'y investir, d'y passer 3 saisons à monter là-haut, mais parce que bah, pour l'instant, j'ai d'autres projets qui me motivent et dans lesquels je suis bien investi.
Yes. Il y a certains blocs moi où je me disais t'as pas encore peut-être mis les mains et tu as peut-être envie d'y aller, je sais pas. Alors à Fontainebleau il y a effectivement Imhotep,
Ouais.
ce fameux départ assis qui a pas encore été réalisé. Alors à ma connaissance t'as pas non plus fait ou essayé Big Island.
Non, je suis pas. J'ai grimpé beaucoup à Blo à l'époque où je faisais les compètes, justement. Enfin, j'ai grimpé beaucoup à Blo. Entre deux séances d'entraînement, on allait pas mal grimper à Blo, mais du coup, jamais vraiment frais. Et du coup, j'ai finalement grimpé à Blo dans plein de classiques pas très durs. Et là, je suis hyper. Je serais motivé à retourner à Blo pour essayer justement les classiques durs que j'ai peu eu l'occasion d'essayer. Du coup, l'hiver prochain, normalement, une des idées, ce serait de monter à Blo et justement d'essayer Big Island. En fait, à Blo, il y a un bloc que j'aimerais beaucoup essayer qui s'appelle aussi Délire Onirique Assis, qui a été ouvert par Charles. Parce que je trouve que c'est magnifique. J'étais allé voir le bloc au pied, c'est super beau. Ça a l'air extrêmement dur, mais c'est très beau. Et il y a quelques classiques comme ça quand même à Blo que j'aimerais bien faire, ou du moins me donner les moyens d'essayer. Du coup, non, Big Island, j'ai jamais essayé pour le coup. Mais je suis motivé pour l'hiver prochain. Ouais.
Bah, tu retrouveras Hugo Parmentier dessus certainement.
Ouais, c'est prévu qu'on se croise là-bas. Bon, il l'aura peut-être fait avant, hein. Il est fort.
Il a pas mal essayé, à mon avis ça va le faire vite, ouais.
Ouais. Je le souhaite.
Il y a un spot que tu aimes bien, c'est Rockland aussi. Et là-bas, il y a encore plein de trucs à faire.
Rockland, j'y ai été déjà 4 fois, je crois. J'ai de la chance. Et du coup, ouais, c'est un endroit. En fait, c'est pour nous Français, c'est quand même facile entre guillemets. Tu prends un avion, t'arrives à Cape Town, il n'y a pas de décalage horaire, tu loues une voiture, t'as 2h30 de route et t'es à Rockland. C'est le voyage rêvé. Et à l'arrivée, le cadre est absolument exceptionnel. La qualité du caillou est hors norme, les couleurs sont folles. Il n'y a pas de... Je sais pas si j'ai vu un endroit dans le monde avec une qualité de caillou pareil, quoi. C'est incroyable. En tout cas, c'est dans le top... Je sais pas, dans le top 5, je sais pas, des meilleurs spots de bloc du monde, je pense. Et c'est pas pour rien si tout le monde y va, de toute façon, c'est que c'est l'endroit, il est exceptionnel pour l'escalade. Et du coup, j'ai beaucoup grimpé, j'ai eu de la chance, j'ai fait plein de classiques durs, voilà. Et il y a un bloc que j'ai essayé, pour le coup, qui me convient pas trop, mais qui est si beau que j'ai quand même envie d'y retourner, qui s'appelle Finish Line. Il y a deux lignes phares à Rockland, c'est Living Large et Finish Line. Et Living Large et
Finish Line.
Ouais. Et ça, c'est pareil. Normalement, l'été prochain, du coup, un des plans, ce serait de retourner à Rockland pour essayer ces blocs. Parce qu'ils sont trop beaux, quoi. Et j'aime bien les blocs hauts. Et ces deux-là. En fait, Nalé, il a apporté quelque chose à notre pratique qui n'existait pas avant. C'est la notion d'escalade d'ample en bloc, en tout cas, est une notion esthétique au niveau des lignes d'ampleur et de difficulté. Il a combiné les trois en même temps et il a fait des chefs-d'œuvre là entre Understanding, Living Large, Finish Line et King Sugi à Red Rocks. Il a ouvert certains blocs quand même complètement fou et ces blocs là, ouais, ils m'animent vachement et c'est des blocs comme ça qui me motivent à aller m'entraîner quand je suis à Annecy à la salle pour devenir plus fort, ouais. C'est pour essayer d'arriver à cocher des lignes comme ça et pourquoi pas aussi un jour arriver à en ouvrir moi-même, quoi. C'est ça, un peu ça le projet global.
Ouais, et alors Nalé ensuite est reparti retombé dans l'anonymat, enfin il a cherché à la discrétion en tout cas.
Ouais, et je pense qu'il la cherche toujours. Je sais pas, on entend beaucoup de bruit de couloir. De temps en temps, on le croise. Je pense qu'il est en Afrique du Sud, j'imagine. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est, bon, je sais pas, il a cherché à s'effacer publiquement du milieu, en tout cas. Alors par contre, c'est pas pour autant qu'il gagne plus. Ouais. On sait pas trop ce qu'il fait, mais j'ai peu de doutes qu'il soit encore extrêmement fort et qu'il ouvre des blocs aux quatre coins de la planète. En fait, on le sait quand même.
Ouais, il s'est recentré sur sa pratique pour oublier, ouais, la pression médiatique peut-être.
Ouais, peut-être que c'est ça. Je n'ai pas discuté avec lui personnellement, donc je peux rien avancer à ce sujet.
Yes. Mais en tout cas,
j'ai respecté énormément pour ce qu'il a apporté à la pratique. Ouais.
En parlant de blocs d'ampleur, tu as dû voir aussi celui qui a sorti Keenan récemment. C'est un highball aux États-Unis, je ne sais plus comment ça s'appelle.
C'est à Bishop.
Il me semble que c'est à Bishop, ouais. À Bishop, ouais. D'ailleurs, il y a aussi Lucid Dreaming. Il y a ce.
Ouais.
Ça, toi, c'est aussi ce genre de projet un peu d'ampleur, ouais, qui t'intéresse parfois quand tu te dis je vais essayer un tel ou tel bloc.
Ouais, alors après, ouais, tout à fait. Alors après, j'essaie de. Quand je vais, par exemple, on est allé au Colorado 2 semaines déjà, 3 semaines, une année. Par contre, j'ai grimpé nulle part ailleurs aux États-Unis. Et donc, c'est vrai que si je vais à Bishop, bah, au tout début, je vais avoir quand même, je pense, envie de découvrir, de faire un peu des classiques. Alors, Lucid Dreaming, il m'attire vachement par sa pureté. Le bloc Kinan, de bloc de Kinan, il a l'air absolument incroyable, mais je sais pas si sur un trip, j'aurai le temps, parce que des blocs comme ça, c'est aussi, il y a une question logistique qui est
Faut
importante.
s'investir, ouais.
Voilà, il faut des crash pads. Quand tu es en voyage, c'est pas hyper facile d'avoir 10 crash pads à dispo et des potes pour les porter et venir te parer quand même. Parce qu'en fait, quand tu fais des blocs hauts comme ça, t'engages pas seulement ta propre personne, tu as aussi du monde qui vient te parer, qui porte des pads, machin. Donc ça, il y a un autre type d'engagement à ça. Donc sur un voyage comme ça, je sais pas si. S'il y a un crew qui se motive, je serais hyper motivé à aller essayer ce bloc-là. Sinon, ce sera peut-être pas dans les priorités. Mais si, ouais, je suis inspiré par ce bloc-là que Kinan a fait. Ouais. En plus, j'aime bien Kinan personnellement. Du coup, ça, j'aime bien aller visiter les blocs de mes copains ou de mes copines. D'ailleurs, il y a des filles qui ont des blocs aussi. Mais ouais, aller essayer de me rendre compte de l'expérience qu'ils ont vécue, c'est un truc qui me plaît bien quand même.
Mais c'est super cool cette émulation qu'il y a dans le haut niveau du bloc, et j'ai l'impression que c'est beaucoup. Bon, il y a les quatre du mélo, de la bande, si on peut appeler
Ouais.
ça une bande, enfin du média mélo, je sais pas comment on peut l'appeler.
Ouais, ils ont
Puis
un
il y a
crew. Ouais, ils ont une sorte d'équipe, ouais.
toutes les personnes autour, et alors c'est super sympa parce que ouais, il y en a un qui ouvre un bloc, les autres vont l'essayer. Et
Ouais.
puis il y a aussi Dave Graham qui est là et qui est toujours hyper actif.
Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a une. En tout cas, Ben alors, c'est pas que le. C'est pas, j'allais dire, en Europe, parce que les Américains, ils viennent chaque année 3 mois en Europe, parce qu'ils sont financés le trajet, c'est trop cool. Mais il y a une super dynamique dans le bloc en ce moment, au milieu naturel. Je pense qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Il y a des jeunes qui poussent, qui font des blocs durs. Il y a aussi des gars, des profils qui vont avoir tendance à développer. Il y a une motivation pour développer l'activité, pour créer des nouveaux blocs. C'est pas juste aller sur un spot et genre cocher 10 blocs et à la fin avoir une liste de crocs énorme. Il y a une volonté de créer des nouveaux trucs et il y a une communauté qui est motivée pour faire ça. Et du coup, c'est vrai que c'est assez sympa parce que quand tu veux aller justement, tu trouves un nouveau bloc qui est haut et que t'es tout seul pour aller l'essayer, ben c'est plus dur que si t'es 5 personnes super motivées pour aller terrasser le bloc, brosser, trouver les méthodes. Et quand t'es dans ce. Alors bien sûr, tout le monde a envie de faire le bloc en premier parce que ben, je pense que on est tous quand même des athlètes, on a tous des ambitions et on vient en tout cas un petit peu de ça quand même, donc on a un petit peu tous besoin. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est assumé. Mais néanmoins, il y a des gens qui sont hyper, hyper, comment dire, généreux. On partage quand même les méthodes, on partage les moments, on partage les séances. Et à la fin, c'est sport, parce que de toute façon, il n'y a pas de. C'est le meilleur qui fait le bloc. Tu as juste à être meilleur que le bout de caillou si tu veux faire le bloc. Donc, il n'y a pas à avoir de mauvaise ambiance là-dessus. Alors après, bien sûr, il peut y avoir de la frustration, ça arrive à tout le monde, j'imagine. Mais grosso modo, c'est vrai que d'avoir un crew comme ça, une émulation comme ça, c'est cool, ouais. C'est riche. Et c'est motivant, ça donne envie de retourner voir ça. Ça crée des liens qui sont au-delà de juste, vas-y, je vais essayer de faire une performance. Ça va au-delà de ça. Il y a une dimension humaine. Et du coup, ça, derrière, ça, ouais, c'est hyper motivant. Il y a une dynamique qui se crée. Donc ça, c'est vrai que moi, je m'en nourris vachement autant que je peux. Quand je peux aller grimper avec des grimpeurs forts et motivés et qui sont en plus créatifs et innovants pour aller chercher des nouveaux trucs et tout. Moi, ça, c'est ça qui me fait triper le plus. Et du coup, j'essaie aussi d'apporter un petit peu ça autant que possible. Voilà.
Yes. En ce moment, ça se passe beaucoup en Suisse, hein, quand même.
Ouais, il se trouve que je sais pas par quel miracle géologique ils ont fait tomber tous les cailloux de leur côté en Europe, Mais quand même, ils ont une quantité de cailloux de qualité exceptionnelle avec et dans un style ludique. Enfin, ils ont des panneaux avec des prises de partout, quoi. Donc t'as des projets 5 étoiles à tous les. Enfin, il y en a quand même beaucoup, quoi. C'est pas facile de trouver des blocs durs, mais quand même possibles, qui soient classe, sympas à essayer. Et il se trouve qu'en Suisse, ils en ont une quantité phénoménale. Donc, ouais, ça se passe beaucoup là-bas parce que c'est bien aussi. Hein.
Ouais. Mais... En ce moment, avec Marine, c'est un peu ton fief quand même. C'est pas trop loin d'Annecy.
Voilà.
Si vous n'êtes pas chez Ronico, vous êtes dans la vallée d'à côté.
Ouais, voilà, on traîne beaucoup au Tessin en hiver, on traîne dans le Valais. En fait, on a eu, quand on s'est rencontrés avec Marine, on était tous les deux, j'étais encore étudiant, mais elle travaillait, au bout d'un moment on s'est mis ensemble et on a cherché un endroit à habiter. Et du coup, quand t'es en France et que tu veux faire du bloc, soit t'habites à Fontainebleau, mais si t'as un job à temps plein à Fontainebleau, il pleut quand même 2 week-ends sur 4 peut-être. Pour être quand ça se passe bien.
En ce moment, c'est tous les jours.
Voilà,
c'est assez particulier.
Le climat, il est particulier. Si t'as pas un emploi du temps un peu flexible, c'est pas toujours évident de profiter de Fontainebleau. Même si la forêt est absolument magique et la qualité de l'escalade à Fontainebleau est une des plus riches que je connaisse. Et il y a de tout pour tous les niveaux et pour plus qu'une vie, je pense. Mais du coup, on a fait le choix de venir plus du côté des Alpes pour pouvoir grimper à toutes les saisons, pour pouvoir varier les altitudes au fur et à mesure des saisons. Et aussi parce que ça nous plaisait bien d'aller grimper en Suisse. On a aussi grimpé à Chamonix, c'est à 1 heure de chez nous. Et grimper, c'est des styles qui nous plaisaient bien. C'est plus basique, hein, c'est des panneaux. Mais on adore ces styles-là et du coup on s'est fait aussi des copains sur ces spots de grimpe, on est devenu familier avec ces spots et du coup on a commencé à les développer et du coup c'était une source de motivation pour nous. Donc ouais, on se plaît bien dans cette pratique-là, je pense.
Yes. Toi, t'as fait quelques ouvertures, ouais, du côté de la Suisse d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a une dont t'as envie de parler? Que ce soit la plus récente ou celle qui t'a le plus marqué.
Dans les blocs sympas que j'ai ouverts, il y a 2 ans, je crois, j'avais ouvert un bloc à Fionnet qui s'appelle Solitary Days. Et ça, c'était assez cool parce que j'étais allé grimper à Fionnet il y a plus longtemps que ça. Il y avait un 8C classique que Dave avait ouvert là-bas qui s'appelle Foundation's Edge. Puis j'avais fait ça et puis pas mal des classiques autour. Et du coup, j'avais un peu perdu la motivation pour aller retourner là-bas, puis 2 ans après, je pense, sans y être allé. Un coup, en rentrant d'un trip en Afrique, justement, on se dit, ah bah tiens, on va retourner là-bas, et puis et en fait, il y avait un projet que j'avais oublié, et c'est un super beau bloc, un super panneau, et du coup, je me suis dit, ah putain, je vais essayer ça. Et du coup, j'ai essayé ce truc, j'ai commencé à défricher les méthodes et j'étais assez fier d'arriver à ouvrir ce bloc parce que c'est pareil, c'est un truc que j'avais regardé à l'époque. Je m'étais dit, oh, les locaux, ils en parlaient comme quelque chose qui marche pas, quoi. Et puis finalement, en revenant plusieurs années après avec plus d'expérience, plus de niveau, j'avais réussi à tout défricher, à ouvrir le bloc. Et puis maintenant, il a été répété une fois par Simone Tentori, un Italien. C'est un bloc qui est technique et physique à la fois, c'est un bloc assez complet, je pense. Et du coup, j'étais assez fier. Maintenant, il y a d'autres gars qui l'ont essayé, un peu Aidan, un peu Daniel, Sean, Dave, tout le monde trouve, et d'autres gars, bien sûr, et tout le monde trouve ça dur et que le bloc est majeur. Du coup, je suis assez fier de cette première ascension. C'est peut-être celle qui m'a le plus marqué jusqu'à présent. Ouais.
Trop bien. Il y a aussi, je voulais revenir un peu sur. Ça a peut-être un bon moyen de conclure aussi sur cette session que vous avez eue avec Marine à la fin de la saison dernière,
ouais.
Où à 30 minutes d'écart, vous avez sorti tous les deux votre bloc le plus dur.
Ouais, ça c'était une belle expérience parce que c'est quand tu grimpes en couple et que chacun a des ambitions élevées, c'est rare d'avoir une journée où à la fin les deux ont quelque chose à célébrer quand même. ça peut arriver que chaque l'un des deux fasse son projet et qu'il soit content et que l'autre du coup ben soit il a un peu donné sa journée pour l'autre parce qu'on s'accompagne mutuellement sur nos projets, soit ben il a essayé, il n'a pas réussi. Mais du coup là c'est deux blocs. Alors il se trouve que le bloc de Fionné sur lequel on a fait, enfin c'est un énorme bloc sur lequel il y a plusieurs passages. Et du coup moi j'ai essayé un bloc qui s'appelle Fox the System qui a été ouvert par Sean, et Marine essayait une autre sortie qui s'appelle Compass North que j'avais ouvert l'année d'avant et qui vaut 8B+. Et du coup on avait un projet au même endroit, donc c'était très facile à essayer. C'était le projet vraiment de l'automne dernier. Et puis au fur et à mesure des séances, on progressait, mais on n'y arrivait pas. Et à un moment donné, à la fin de la saison, ben on avait une session de fou. Chacun on mettait notre meilleur essai, l'un à la suite de l'autre, mais on n'y arrivait pas. Et un coup, Marine, elle a pété le bloc un coup. Et du coup, moi, ça m'a hyper inspiré. Et 20 minutes après, j'ai remis un run et j'ai enchaîné aussi. Et c'était chacun nos blocs les plus durs. Du coup, je pense que c'était assez unique comme expérience. C'était vraiment cool. Le soir, on a pu quand même se faire un bon resto. On s'est pété une bouteille de vin, c'était cool.
Ah, ben voilà.
C'est pas si souvent que tu peux célébrer comme ça deux vraiment ouais. Belles ascensions pour un couple, je pense.
Ouais, c'est top. Moi, je sais même plus quand ça nous est arrivé.
Ouais, c'est rare et du coup, c'est vrai que c'est important de le célébrer aussi.
Profiter, ouais. Ouais, c'est ouais. Clair. Voilà. Bon, écoute, comme ça a été très difficile de parler avec toi. Puisque on a remis ça plusieurs fois.
Ouais. Je m'excuse pour les imprévus.
Alors il y a aucun souci, mais du coup je t'ai retenu un peu plus longtemps. J'en profite.
Ouais, avec plaisir.
De t'avoir sous la main, mais en tout cas, je vais te redonner ta liberté. Et je te remercie. Je te remercie énormément pour ce petit moment ensemble.
Ouais, merci en tout cas pour l'échange et puis bonne continuation.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple, soit sur Instagram, allezpodcast, ou par mail allez.podcast@gmail.com. Allez, bonne grimpe et à bientôt.